L'une vient de fêter ses 95 ans, l'autre 92. Toutes les deux rient beaucoup. L'une a les yeux et les oreilles qui semblent avoir décidé d'arrêter de faire le job, l'autre pète le feu. Ce sont mes grands-mères. Encore aujourd'hui, à presque 50 ans, je les appelle Mamie Gigi et Mamie Adrienne. Alors qu'en France, 2 millions de personnes âgées souffrent de solitude, elles sont plutôt bien entourées. Ce week-end, par exemple, Mamie Gigi fêtait son anniversaire, 27 personnes autour de la table, y compris son dernier arrière-petit-fils. Il vient de naître. Presque un siècle les sépare. Il ne marche pas encore, elle ne marche plus, elle a besoin d'un déambulateur, elle l'appelle « mon cheval ». Et comme à chaque fois, elle termine son discours par « l'année prochaine, je ne serai peut-être plus là ». Bien sûr, un jour ou l'autre, elle finira par avoir raison. Mais pour l'instant, elle se promène avec son cheval. Dans Grand Bien vous fasse, aujourd'hui, on se pose cette question. Comment bien vieillir ensemble? Comment sortir du système des EHPAD qui vient de cruellement montrer sa violence? Quel type de logement? Quelles initiatives dans les villes, les villages? Comment faire face aussi quand on voit ses parents de plus en plus diminués? On attend vos commentaires, vos réactions, vos témoignages. 01 45 24 7000. Et vous pouvez aussi nous écrire et même nous laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Quel est l'objet de votre chronique de ce mardi?
Eh bien écoutez, aujourd'hui nous allons parler Jean Gabin et recettes de poisson.
Des héros aussi.
Bah oui, le poisson est un héros et Jean Gabin également.
Marie-Laure Sunshine du journal Femme Actuelle est avec nous également. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Thomas.
Grand bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter. Thomas Chauvineau. Grand bien vous fasse.
Et trois invités pour parler ce matin du troisième, quatrième, cinquième, sixième âge. Bonjour Véronique Lefebvre-Desnouettes.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialisé en gériatrie ambulatoire à l'hôpital Émile Roux à Limeil-Brévannes. C'est dans le 94,
hein, c'est ça.
Et vous avez notamment publié ce livre « Vieillir n'est pas un crime » pour en finir avec l'âgisme. C'est aux éditions du Rocher. Et puis nous sommes aussi en duplex avec les fondateurs de Oldyssée. Bonjour, Julia Maury et Clément Boxbeld.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous donc en duplex de Corse et merci aux techniciens qui assurent la liaison. Alors, Oldyssée, pour le faire court, on pourrait dire que c'est un peu le média qui donne la parole aux vieux. Du moins, c'est comme ça que vous vous présentez.
Oui, c'est ça. Nous, on n'a pas peur d'utiliser le mot vieux, qui souvent est considéré comme péjoratif. Mais on trouve que c'est dommage et on a envie de le réhabiliter et de l'entourer de représentations positives en donnant la parole aux vieux.
Je vois Véronique Lefebvre-Desnouettes qui hoche la tête en disant « oui, c'est vrai, utilisons le mot vieux ».
C'est un très joli mot, plein de douceur. Et puis, ça ne veut pas dire usé, être vieux.
Qu'est-ce que ça veut dire, être vieux ?
Être en vie. Parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour continuer de vivre que de vieillir. Autant vieillir bien.
Vous avez aussi publié, Julia Maury et Clément Boxbeld, un livre qui s'appelle « Vieillir ensemble, un tour du monde des solutions qui rapproche les générations ». C'est aux éditions Point, c'est un livre de poche. Et puis, on vous a connu et vous avez lancé Oldyssée de cette façon en filmant deux DJ français qui animaient des soirées musicales ou des après-midi électro dans des maisons de retraite. Une vidéo qui avait fait le buzz au moment où vous l'avez mise en ligne parce que justement ça allait à l'encontre de toutes ces images qu'on se faisait des petits vieux qui jouent au bridge ou qui tricotent dans les maisons de retraite.
Oui, c'est ça. Ben, on avait rencontré ces deux DJ qui menaient des ateliers intergénérationnels avec où ils initiaient les jeunes et les plus âgés à la musique électro. Et nous, quand on y est allé, ben il y avait que des résidents d'EHPAD qui étaient présents ce jour-là. Et en fait, ils étaient complètement passionnés par l'atelier parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de la musique électro à peu près dans tous les programmes télé qu'ils regardaient. Je me souviens d'une mamie qui tapait de la charentaise en écoutant de la musique trance pendant l'atelier. Voilà, ces deux DJ cassaient aussi les représentations qu'on peut avoir des plus âgés.
Et c'était une surprise pour vous également ?
Bah oui, c'était la première vidéo qu'on faisait. Et pour nous, c'était un nouveau sujet. On a décidé de se lancer parce qu'on avait chacun une représentation très positive de la vieillesse, un peu comme vous. Parce qu'on a eu la chance de connaître nos grands-parents sur 25-30 ans et de créer un lien très complice. Et c'est la première fois qu'on se lançait et qu'on allait voir des initiatives positives qui permettaient de valoriser le rôle social des personnes âgées. Et c'est vrai que Ça nous a un peu surpris, mais le message, c'est de se dire que finalement, quand on initie les personnes à une culture, alors peut-être qu'au départ, on a tous des préjugés sur la culture d'une autre génération, mais quand on rentre vraiment dans le sujet et qu'on les initie, en fait, tout le monde est capable d'apprécier la culture de l'autre et on peut vraiment rapprocher les générations, quoi.
Vous racontez notamment dans votre livre comment on peut s'amuser de votre grand-mère qui piquait les couverts dans les restaurants, comment au quotidien finalement il y a cette approche de la vieillesse sur laquelle on porte un regard plein d'empathie, d'amour, et puis le fossé qui sépare ce quotidien de la représentation qu'on peut avoir aujourd'hui des personnes âgées.
Oui, on a tous un paradoxe, je pense, c'est que personnellement, on a une vision très positive du vieillissement à travers l'exemple d'un grand-parent, d'un oncle, d'une tante ou d'un voisin qui pour nous est un modèle. Et moi, donc, dans le cas de ma grand-mère, ce qui m'a marqué, c'était en effet sa fin de vie. Elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, j'avais pas le rôle d'aidant qui était celui de ma mère et qui, on le sait, est très difficile à porter, notamment quand on travaille en même temps, etc. Mais moi, en tant que petit enfant, je me suis beaucoup amusé en fait de cette maladie parce qu'il y avait un aspect très poétique, oui, dans le fait qu'elle trouvait tout ce qu'elle trouvait beau, elle le prenait, elle l'embarquait dans son sac, ou elle pouvait montrer dans le ciel un oiseau qui passe, une couleur, et tout d'un coup ça donnait vraiment beaucoup de poésie à mon quotidien. Et ça montre que le lien qu'on peut créer, enfin moi ça m'a montré que le lien qu'on peut créer même avec une personne qui est en perte d'autonomie, qui a la maladie d'Alzheimer, on peut toujours créer un lien qui est très positif. Et je trouve que ça donne beaucoup de sens aussi au métier du grand âge. L'idée que finalement, on peut toujours créer un lien avec ces personnes-là. Et donc, on est tous marqués par une expérience personnelle très positive du vieillissement. Mais en même temps, on avait le sentiment, nous, quand on s'est lancé sur le lycée, que dans les médias, globalement, la vieillesse, c'est plutôt associé vraiment au déclin. C'est un problème démographique, c'est un problème économique, c'est beaucoup de problèmes. Et finalement, on voyait très peu de solutions, quoi. Et on a voulu se concentrer sur les solutions.
Véronique Lefebvre-Desnoëttes, je vous vois hocher la tête, mais cette idée de changer la façon dont on regarde le troisième, quatrième, cinquième âge, c'est important pour vous?
Oui, il est nécessaire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Nécessaire de témoigner. Moi, je suis la seule psychiatre pour les près de 1000 lits et places de gériatrie. Et les personnes dont on s'occupe ont 85 ans, en moyenne, sont les femmes, et qui ont pour la plupart des troubles cognitifs de type maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'on massifie les vieux, on les voit que comme une somme de déficits. Or, ce que nous disent ces jeunes de lycée, c'est que ma grand-mère était formidable. Les singularités, oui, elles sont toutes formidables puisqu'elles sont inscrites dans mon cœur. Mais moi, ce que je souhaite témoigner, c'est qu'on peut tisser des liens formidables, même dans des institutions gériatriques. Donc, changer le regard que l'on porte, que la société porte sur ces personnes âgées avec handicap, est quelque chose qui est mon combat, parce que on va trouver une meilleure façon de vivre ensemble.
Dans votre livre, justement, Vieillir n'est pas un crime, vous commencez par lister de manière alphabétique tous les qualificatifs qu'on peut donner à ce que vous appelez les vieux, donc âgés, aïeuls, aînés, Alzheimer, anciens, antique, barbon, boiteux, caduc, centenaire, croulant, décrépit, dépassé, doyen, expérimenté, fané, fatigué, fossile, fragile, fripé, gâteux. Je tourne les pages parce que ça va comme ça jusqu'à Z, enfin jusqu'à V, quoi, hein, plutôt. Donc senior, usé, vénérable, vétéran, vieillard, vieille, enfin des vieux.
Oui, des vieux, vieux, des vrais vieux. Hein. Ceux que je connais sont les
Qu'est-ce
vrais
que c'est vieux. Un vrai vieux?
C'est quelqu'un qui a son âge, mais l'âge de son corps. Ben oui, l'âge de
ses artères aussi, disait-on.
Aussi,
mais
de
que
son
c'est
corps, de ses artères, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte la nouvelle donne. La donne de pas être aussi performant que lorsqu'on avait 20 ans, qu'on faisait le marathon de Paris. Moi, j'ai une personne âgée qui me dit, j'ai 89 ans, maintenant je fais le semi-marathon. Alors, ben oui, il est en même temps vieux et en même temps pas vieux-vieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas renoncé. Vous voyez ce que je veux vous dire?
J'ai 89 ans, le semi-marathon, c'est quand même balèze.
C'est formidable. Ne pas se mettre des objectifs inatteignables. On réduit la toile un petit peu,
alors,
mais on continue.
Puisqu'on parle sport, je voudrais vous faire écouter l'extrait de votre documentaire, Julia Amoury et Clément Boxbeld, qui a été diffusé l'an dernier sur France Télévisions. Alors, on peut être grand-père et chausser des chaussures de sport, des baskets pour faire le semi-marathon, et on peut être aussi grand-mère et chausser des crampons pour faire du foot. Vous avez suivi un France-Afrique du Sud des plus de 65 ans, c'était en marge du mondial féminin de 2019.
Oh, attends, c'était 10-0, première partie, et ensuite, bravo les coachs, qui en seconde partie ont dit bon, a vu le niveau, on va les mélanger. Et là, ça a été extraordinaire. On ne savait plus qui était qui, mais enfin, voilà. On a joué et là, Adriana, qui a marqué un but, m'a dit, ce but, je l'ai marqué parce que l'amie africaine m'a laissé le marquer.
Une sud-africaine m'a dit, je suis heureuse d'être vieille. Et là, ça m'a... Je dis, waouh, ça c'est beau. Et je crois qu'il ne faut plus parler d'âge.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, Julia Maury et Clément Boxbelt, de ce documentaire que vous avez réalisé, donc avec qui s'appelle Mamie Foot?
Oui, alors ben justement, c'était pendant notre exploration autour du monde qu'on a rencontré des Sud-Africaines qui jouaient au foot, donc des grands-mères sud-africaines. Et là-bas, faut savoir que c'est un mouvement vraiment d'une grande ampleur, puisqu'il y a une fédération de football pour grands-mères avec 80 équipes de foot de grands-mères. Enfin, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et nous, on a rencontré la première équipe de grands-mères sud-africaines et on les a filmées. Et on s'est dit c'est dommage qu'il n'existe pas la même chose en France. Et puis ces Sud-Africaines, elles nous ont dit, vous savez, justement, l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde féminine de France en 2019. Donc on aimerait beaucoup pouvoir venir en France pour montrer que les grands-mères aussi peuvent jouer au foot et puis pour initier des grands-mères françaises. Alors on leur a dit, vous savez, nous en France, voilà, il y en a pas, il faut trouver des femmes qui vous affrontent. Donc on a rencontré un groupe de résidence pour seniors, les seniorial, qui ont fait un recrutement dans leur résidence pour trouver des volontaires. Et puis ces femmes françaises qui avaient jamais touché un ballon de leur vie ont commencé à s'initier pour se préparer aux grands match contre les Sud-Africaines et puis donc on a suivi toute cette aventure avec la formation de l'équipe française et puis le match en marge de la Coupe du Monde et puis voilà, c'était une rencontre extraordinaire parce que bon, c'est vrai que les Françaises avaient beaucoup moins d'expérience, elles ont perdu
10 à 0 quand même.
10 à 0 voilà. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, elles continuent le foot, elles ont créé une association de football qui s'appelle Footeuses à tout âge et elles recrutent des femmes âgées sur tout le territoire français. Donc ce qui est vraiment génial, c'est que cette initiative rencontrée en Afrique du Sud ait pu faire des petits en France.
Ça donne en tout cas un chouette documentaire que je vous invite à regarder. Vieillir ensemble, le titre de votre livre, donc c'est un tour du monde des solutions qui rapprochent les générations, ça c'est le sous-titre que vous lui avez donné. En Afrique du Sud, justement, vous avez aussi rencontré des boxeuses du 3e, 4e, 5e âge.
C'est ça. Alors, faut savoir qu'en Afrique du Sud, oui, pourquoi toutes ces initiatives sont nées en Afrique du Sud? C'est aussi une génération qui a connu, qui a un rôle de pilier dans les villages. La génération d'en dessous s'est fait un peu décimée par le sida. Et donc, c'est des grands-mères qui ont souvent des petits-enfants à charge dans des quartiers pauvres. Et donc, ces Boxing Grannies, c'est dans un township à côté de Johannesburg. Et en fait, pour elle, c'est vraiment un moyen de se défouler énorme et puis de se retrouver aussi en communauté, quoi. De se retrouver entre grand-mères. Et il y a une certaine solidarité qui se crée entre elles avec ce sport qui les rassemble. Mais ça va bien au-delà, finalement, du sport. Et elles nous ont... Enfin, elles sont... Il faut voir les images aussi. Elles sont hyper entraînées et on s'est un peu entraîné avec elles. Je pense que elles nous mettaient KO.
Il faut savoir que le foot et la boxe, c'est un moyen pour elles aussi d'être en meilleure forme physique parce qu'elles souffrent de diabète, de maladies chroniques et donc le fait de se retrouver pour se défouler, ça diminue considérablement leur maladie.
Et elles ont entre quel âge et quel âge?
Bah, là, donc, les joueuses françaises, elles avaient entre 65 et 85 ans. Il y en a une qui avait une double prothèse de hanche. Et les sud-africaines, c'est aussi, alors, c'est la moyenne d'âge est peut-être un peu plus basse, l'espérance de vie. Mais c'est pareil, c'est entre 60 et 80 ans. Et donc, l'activité physique, elle est un peu adaptée. Elles vont pas faire des combats de boxe, comme on peut l'imaginer, des poids lourds sur le ring. C'est pas des combats, mais il y a tout l'entraînement, il y a tous les gestes et voilà, c'est vraiment un vrai sport. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement une occupation thérapeutique. Souvent, quand on pense aux personnes âgées, on se dit on va leur proposer une activité, on va les occuper, une activité. Souvent, l'adjectif qui a collé, c'est thérapeutique, comme si il fallait tout était maladie, qu'il fallait soigner, etc. Là, c'est juste une activité, c'est une passion, c'est un sport. Et on y donne du sens parce que on fait un vrai tournoi, on fait un vrai match. Et tout de suite, ça donne un sens à ça, quoi.
Mais néanmoins, les vertus thérapeutiques sont là, Véronique Lefèvre des Noëttes.
Bien entendu, il faut s'entretenir tout au long de sa vie. Mais c'est pas très compliqué, hein. Marcher tous les jours. Une demi-heure, ça fait reculer la maladie d'Alzheimer, ça oxygène le cerveau, ça entretient les muscles, faire du vélo, c'est vraiment pas des choses compliquées, bien se nourrir, sortir de son isolement, on en a parlé, se retrouver ensemble.
Oui, jouer ensemble.
Jouer ensemble, mais à autre chose que le backgammon ou des jeux pseudo-intellectuels. Hein. Avoir cette curiosité du monde, pourquoi pas, moi si on me proposait de faire de la boxe ou du foot, j'essaierais, sûrement.
Marie-Laure Zonshine, vous aviez une question.
Oui, la place accordée aux personnes âgées, on le voit bien, c'est d'abord affaire de culture. Hein. Chacun d'entre vous a raconté des souvenirs personnels liés à ses propres grands-parents, basés sur le respect dû aux anciens. Est-ce que c'est aussi une volonté politique du moment pour tenir compte du vieillissement de la population ? Autrement dit, que faut-il pour que ça marche ? Pour que, effectivement, cette alchimie où finalement l'âge n'est plus un critère, où on peut mêler ces générations, à quoi ça tient ? Pourquoi dans certains pays, vous en avez traversé de nombreux, c'est presque naturel. Et peut-être que dans nos sociétés à nous, il faut plus de volonté, effectivement, d'implication des acteurs publics ou locaux, on va certainement en parler, pour effectivement essayer de monter, de souder quelque chose.
Oui. Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment des initiatives pionnières dans tous les pays. Ça ne représente pas, une politique ou vraiment une moyenne globale sur le pays. C'est vraiment des initiatives pionnières qu'on allait piocher un peu partout, dans plein de cultures, dans plein de pays, parce qu'on avait envie de s'inspirer de choses qui venaient d'ailleurs et qui avaient pu naître dans un autre contexte, dans une autre culture, et qui pouvaient faire des petits en France et améliorer la situation chez nous. Alors en France, en termes de modèle, on a quand même la chance d'avoir un modèle social assez développé, hein, sur la retraite, sur le modèle de soins, etc. Ça faut le relever. Après, les progrès qu'on a à faire, maintenant que ça s'est bien développé et d'autres pays n'ont pas la chance de l'avoir, c'est la question du rôle social qu'on donne aux personnes âgées. Un peu dans une société qui s'est créée autour du travail, on a le mot retraite, il est porteur aussi de quelque chose d'assez négatif, de retrait de la vie active. Il y a un peu le côté, il y a les actifs et puis ensuite il y a les autres. Et les vieux seraient un peu inutiles. Et c'est un peu sur ça qu'il faut lutter, c'est cette sorte d'agisme. Et sur cette question du rôle social à donner aux personnes âgées. Et donc on s'est inspiré de plein d'initiatives où justement les personnes âgées jouent un rôle de mentor. Je peux donner l'exemple en Afrique du Sud, en Afrique toujours, au Sénégal, de ces grands-mères qui se mobilisent pour lutter contre les mariages forcés, contre les grossesses adolescentes, et qui jouent un vrai rôle de moteur du changement dans leur village, et de se dire finalement quel rôle pourraient jouer les personnes âgées dans nos sociétés sur les défis qui se posent à nous. Comment on pourrait les mobiliser sur les grands défis qui se posent à nous, quoi.
Sur franceinter.fr, Lisiane nous dit bonjour. Au Japon, il existe des structures dédiées aux personnes âgées qui leur permettent d'y dormir, de participer à des activités le jour sur la base du volontariat, tout en continuant à vivre chez eux. De surcroît, une amie dont la mère profite de cette structure m'a dit que le tarif est très démocratique. Comment bien vieillir ensemble? C'est la question qu'on se pose ce matin dans Grand Bien vous fasse. Et on attend toujours vos solutions, vos témoignages au 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous écrire sur l'appli de France Inter et également nous laisser des notes vocales.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Et Léonore attaquait le thème au piano. On trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter. Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret. Elle disait reprenez à fa mi fa mi ré. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour, Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés, la fugue seule est restée. Mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
Maxime Le Forestier, La Petite Fugue, toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
Grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Trois invités pour parler du bien vieillir ensemble aujourd'hui. Véronique Lefebvre-Desnouettes, qui est psychiatre spécialisée en gériatrie, et les fondateurs d'Oldysée, donc ce média qui donne la parole aux vieux, hein, Julia Moury et Clément Boxbeld. À partir de quel âge on est vieux, Véronique Lefebvre-Desnouettes?
Il n'y a pas d'âge pour être vieux.
On peut bien commencer quelque part quand même.
Oui, mais il n'y a pas de frontière, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas au-delà de cet âge, votre ticket n'est plus valable. On peut être très vieux à 20 ans, comme on peut être très jeune à 100 ans. Si, il y a des journées où vous vous sentez très vieux, très fatigué de vivre même parfois. Et puis le soir, ça va beaucoup mieux. Donc il faut voir que c'est une dynamique, c'est un processus, ce n'est pas un état.
Bon, mais on dit par exemple 65 ans.
Alors on dit 65 ans, mais moi j'ai plus de 65 ans, je ne me sens pas vieille du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je ne me permettrai aucun jugement de valeur. Ne mettez pas dans
l'embarras. Alors en gériatrie, on s'occupe des personnes de plus de 75 ans. Et la moyenne d'âge, c'est 85 ans. Mais moi, je m'occupe de gens malades. La vieillesse n'est pas une maladie. Mais malades représentent que 5 à 10% des personnes qui ne peuvent plus rester chez elles et qui sont à l'hôpital du fait de leur polyhandicap, on va dire.
C'est à ce moment-là, alors, peut-être qu'on change et qu'on bascule dans une autre... disons un autre aspect de la vieillesse, quand on devient oui. De moins en moins autonome.
Oui, parfaitement. Alors l'autonomie, c'est la valeur culte, hein, puisque je suis par ailleurs philosophe. Autos nomos, se donner à soi-même sa propre loi, c'est vraiment le philosophe des Lumières, Kant. Eh bien, on est une société qui ne prône que l'autonomie, même l'appât, l'allocation autonomie pour personnes âgées, les lois d'autonomie. Et lorsqu'on devient dépendant, eh bien, on devient quelqu'un de pas fréquentable. Or, on ne peut pas ne pas dépendre. On dépend d'un horaire, on dépend de quelqu'un qui va être en face de vous, on dépend d'une altérité qui sera là ou non pour vous aider lorsque on arrive moins bien à marcher, lorsqu'on utilise son cheval comme votre grand-mère. Moi, j'ai une patiente qui appelle ça sa rossinante, hein, son déambulateur. Eh bien, on devient un peu plus dépendant, mais c'est pas pour autant qu'on devient quelqu'un qui est une accumulation de sa dépendance et de ses pathologies. Bien au contraire.
Alors 8 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile, c'est constant hein, dans ce type de sondage. Et donc les initiatives se multiplient pour sortir des EHPAD, hein, dont on a vu évidemment le fiasco avec le livre de Victor Castanet récemment. Et il y a notamment une initiative qui s'appelle EHPAD hors les murs, qui consiste finalement à déplacer l'EHPAD pour que les gens puissent rester chez eux.
Oui, alors on la connaît déjà sous le mot de service de soins à domicile, hein, ça s'appelle le SIAD, ça existe déjà sous le terme d'équipe mobile gériatrie, où vous avez une psychologue, vous avez un ergothérapeute. C'est pas mal d'aller voir comment se fait le domicile. Est-ce que là, il n'y a pas une table sur laquelle je pourrais chuter, m'abîmer la hanche en marchant? Est-ce que je ne peux pas réorganiser mon chez-moi? Tout le monde veut rester chez soi. C'est bien normal. Hein, parce que rester chez soi, c'est rester soi. Or, on ne se voit pas vieillir. On a ses repères, et c'est son repère, AIRE. On a ses repères spatio-temporaux, on a ses voisins, on a le nombre de marches qu'il faut pour monter, on a ses commerçants de proximité. Donc, l'EHPAD dans les murs, c'est sorti en 2017, à la suite de la grande grève des EHPAD, où Madame Buzyn avait lancé une mission flash avec Caroline Fiat, aide-soignante de son État, et Madame Iborra, députée, qui sont allées partout, y compris en Belgique, en Allemagne, etc. Et qui se sont dit, il faut sortir de ce concept. Comme on faisait des CAT, Centres d'aide par le travail, on a fait des ESAT, hors les murs. Donner le travail hors les murs. Que ça ne soit plus un lieu d'enfermement. Et si c'est un lieu, on aura encore besoin d'EHPAD. Bien sûr, il va manquer 100 000 places. Parce que nous aurons des personnes avec dépendance accrue. Mais il faut repenser ce vivre ensemble.
Donc ça veut dire arrêter de construire des EHPAD, puisqu'on continue à en construire beaucoup.
Et alors, certainement pas sur le même modèle. Pas sur le même modèle. On en aura besoin, mais sur le modèle de petites unités de vie, de colocation, de béguinage, d'habitat intergénérationnel, voire de pension de famille ou d'accueil familial. Ça, c'est quelque chose que l'on sait déjà faire et qu'il faut promouvoir.
Alors justement, nous sommes au téléphone avec Hélène. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour.
Vous êtes la présidente d'une association qui travaille précisément sur cette question de cohabitation intergénérationnelle. Alors le mot était un peu pompeux, mais l'idée c'est de faire vivre ensemble deux différentes générations.
Voilà, deux générations, les personnes, les vieux comme vous avez dit. Et alors pour nous, c'est une cohabitation qui est dans le cadre de la loi Elan. Donc vieux, on est vieux à partir de 60 ans. C'est un peu dur à entendre. Et puis pour
surtout
des personnes,
surtout pour Véronique Lefebvre des Noëttes.
Oui, et même pour moi qui ai plus de 60 ans. Et puis pour des jeunes, disons dans le cadre de la loi Elan, c'est moins de 30 ans. Alors je dis, j'ai toujours pour habitude de dire l'un offre un toit et l'autre sa présence. En fait, eh bien, la personne âgée qui a une chambre qu'elle peut mettre à disposition pour un jeune, elle l'accueille chez elle. Il y a une participation aux charges, il y a une adhésion à l'association qui suit la cohabitation intergénérationnelle, puisque les binômes ne se font pas par hasard, j'allais dire, ce sont des professionnels qui accompagnent ce dispositif et qui mettent en relation la personne âgée qui souhaite rester chez elle et accueillir un jeune, et le jeune qui souhaite s'engager dans ce dispositif. Ce n'est pas qu'un logement pas cher pour le jeune non plus. Et ça répond, à deux solitudes, à deux problématiques. Le vieillissement et le problème des logements chez les jeunes. On a vu justement avec la crise sanitaire la difficulté des jeunes également. Et vraiment, c'est un partage. Et pour la personne âgée, elle retrouve une raison sociale. J'ai écouté votre émission depuis tout à l'heure, et c'est vrai, une raison sociale. Retrouver un sens à sa vie, parce que même si on a de la famille, eh bien, se sentir utile, c'est extrêmement important. Et puis, des petites choses, des petits détails, entendre la clé dans la serrure, avoir quelqu'un qui va rentrer le soir, pouvoir échanger, pouvoir bavarder, pouvoir partager des petits moments de vie tout simples, mais qui font que la vie est plus douce et que la vie devient plus agréable pour ces personnes âgées, qui retrouvent, comme j'ai dit tout à l'heure, du sens à leur vie. Et puis pour le jeune qui ont aussi qui a un engagement dans la société et qui font que le vivre ensemble est possible. On casse les clichés, on casse ces idées préconçues et reçues comme quoi ces deux générations ne peuvent pas cohabiter. Eh bien nous, c'est tout à fait le contraire. Et en fait, c'est aussi, par le travail des associations qui sont pour le suivi. Parce que c'est pas toujours facile pour le vieux d'ouvrir la porte de son logement et de vivre avec quelqu'un. Et là, il y a toute une démarche intellectuelle. Il faut que la famille l'accepte aussi.
Bien
aussi,
sûr.
Des fois, ça peut être le frein, la famille autour. Et puis, c'est vraiment un plus pour pouvoir rester chez soi et pour pouvoir partager des bons moments de vie.
Merci Hélène d'avoir apporté votre témoignage à Grand Bien Vous Fasse ce matin sur franceinter.fr. Ces autres témoignages qui continuent de nous arriver, celui-ci qui nous dit « J'écoute l'émission depuis ce matin et je trouve insupportable l'appellation de grand-mère quand les invités parlent des femmes âgées. J'ai 63 ans, je n'ai pas de petits-enfants, donc je ne suis pas grand-mère, c'est péjoratif. » On va essayer de dire les grand-mères et les femmes âgées, mais ça risque d'être un petit peu long. Et puis ce témoignage d'Emma qui nous dit « Au Vietnam, dans certaines régions, il existe des maisons de retraite qui sont aussi des orphelinats. Ainsi, les personnes âgées vivent et s'occupent des orphelins en attente d'adoption. Chaque génération apporte à l'autre, notamment attention et affection, dont on a tant besoin au début et à la fin de son existence. Julia Moury, dans votre tour du monde des initiatives, vous avez notamment en Allemagne découvert les maisons intergénérationnelles qui fonctionnent, me semble-t-il, un peu comme cette maison dont on vient de parler au Vietnam.
Oui, c'est ça. On a rencontré une maison multigénérationnelle à Salzgitter, qui a été créée par à l'origine par une jeune mère qui avait 3 enfants à charge et qui se sentait très seule dans cette ville assez anonyme. Et donc elle a réuni les autres femmes de la ville qui étaient des jeunes mères qui s'occupaient de leurs enfants aussi. Pour créer un lieu d'entraide. Et puis petit à petit, les personnes âgées du quartier sont venues toquer pour dire « si vous voulez, je peux vous filer un coup de main, j'ai un peu de temps, je peux faire à manger, je peux garder les enfants ». Et donc c'est devenu un petit local, puis une structure un peu plus grosse. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment immense de plusieurs milliers de mètres carrés qui est au cœur de Salzgitter et qui s'est aussi développé dans d'autres Länder. Donc il y en a 500 à travers l'Allemagne. Et donc ce sont des lieux en fait de proximité où les gens viennent à pied. Alors il y a aussi des systèmes de covoiturage qui peuvent les emmener pour la journée. Et donc des lieux où les personnes âgées se retrouvent juste pour passer du temps ensemble avec des plus jeunes. Il y a une crèche, il y a des ateliers de mémoire, et puis surtout il y a un restaurant qui fait de la bonne nourriture maison et vraiment pas cher. Et en fait, ce que nous dit la fondatrice de ce lieu, qui est donc la jeune mère qui aujourd'hui a 70 ans et qui tient toujours le lieu, elle nous dit que voilà, ce qui réunit les gens en fait, c'est de la bonne nourriture maison et pas cher. Voilà, c'est la nourriture qui rassemble tout le monde. Mais donc c'est vrai que ce modèle là de maison multigénérationnelle où tout le monde, tout le quartier se retrouve, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué, parce que c'est un pays qui est l'Allemagne, qui est juste à côté de chez nous, et dont on peut vraiment s'inspirer, parce qu'au niveau de la culture, enfin on est quand même des pays assez proches. On voit en France des
plus vieillissants, hein, pour l'Allemagne. C'est un pays plus vieillissant que la France.
Tout à fait. La moyenne d'âge est plus élevée là-bas. Il y a plus de vieux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très citoyen, la culture. Donc c'est vraiment les voisins qui se sont emparés du lieu et puis qui ont petit à petit développé les activités qui allaient convenir aussi aux personnes du quartier et qui faisaient que ce lieu finalement est attrayant par nature et que le lien entre générations, il se fait de façon assez naturelle, assez spontanée. En France, il y a des initiatives que j'aimerais citer qui vont dans ce sens-là. Il y a les petites cantines, par exemple, qui créent des petites cantines de quartier où les voisins viennent le matin pour préparer le repas ensemble et pour offrir un repas pas cher aux autres personnes du quartier. Il y a chez Daddy à Lyon qui ouvre des cafés dans des résidences seniors. Et il y a aussi l'initiative 1000 cafés, parce qu'on sait que dans les villages, finalement, le lieu de sociabilisation, c'était un peu les cafés, que dans beaucoup de villages, les cafés ferment, les commerces ferment. Et l'initiative 1000 cafés, elle vise à inciter des gens à reprendre les cafés et à refaire renaître ces lieux qui finalement sont indispensables. Qu'il y ait un lieu pour se rencontrer de façon assez naturelle, c'est indispensable pour créer du lien entre générations et permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible.
Alors il y a les lieux de vie, les lieux de rencontre, il y a aussi les lieux de logement. Quelles sont les alternatives aux EHPAD, justement, Véronique Lefebvre des Noëls?
Les petites unités de vie dont je vous parlais, où vous avez 11 personnes, elles sont viables. J'en ai parlé dans mon livre, j'ai montré qu'on peut avoir avec les APL, l'APA, mutualiser une infirmière. Mais il faut du lien. Notre auditrice a bien témoigné, il faut toujours du lien, de l'associatif, du lien des bénévoles pour que ces petites unités de vie soient viables, les colocations intergénérationnelles, les habitats partagés.
Alors qu'est-ce que c'est un habitat partagé?
Alors par exemple, vous allez avoir un habitat qui va évoluer, c'est-à-dire on va faire 10 maisons les unes à côté des autres, où vous allez avoir une personne âgée avec un couple, avec jeunes enfants et avec éventuellement ça peut être sa fille, les petits-enfants, et on va mutualiser la maison après. Elle va pouvoir s'ouvrir. Il y en a en Bretagne, il y en a à Beauvais, il y en a... La province est beaucoup plus en avance que Paris, hein. C'est plus facile de porter des projets alternatifs en province, dans les petits villages, en Bretagne, que à Paris, mais rien n'est impossible. possible. Le fait que dans certaines EHPAD à Paris, vous avez déjà des crèches, vous avez déjà des haltes garderies, vous avez déjà des activités communes entre les personnes âgées, qui sont pourtant extrêmement dépendantes, hein, qui peuvent faire peur aux enfants, mais pas du tout. Ils y vont naturellement, les échanges se passent très très bien. Il y a la solution des pensions de famille, qui est extraordinaire, que j'ai vue en Martinique.
Très, très rare en France, elle est à peu près 10 000 places, hein, je crois.
Oui, c'est ça, mais j'en ai vu en Martinique parce que je travaille beaucoup avec les dom-toms. Et puis les accueils familiales, comme on fait avec les personnes en situation de handicap mental, par exemple. Donc une famille accueille une ou trois personnes âgées et va lui fournir le gîte, le couvert et surtout l'être à l'autre.
Et ça se développe ?
Ça se développe énormément. Énormément. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on reste chez soi, parce que rester chez soi, c'est formidable, mais il faut quelqu'un d'autre. Sinon, vous allez être isolé, vous l'avez rappelé. Il y a un isolement qui est terrible. Les petits frères des pauvres ont montré qu'il y a plus d'un million de personnes en situation d'isolement. Et ça, ça vous fait mourir de chagrin. On l'a vu pendant la pandémie. Donc, rester chez soi, c'est formidable, mais ça peut coûter cher et il y a l'isolement. Donc, avoir quelqu'un qui peut venir, qui peut, sans être intrusif, hein, sans être intrusif, il faut l'accord d'une personne pour qu'on puisse rentrer chez elle. Parce que sinon, son logement privé va devenir un logement public ouvert à tout champ.
Marie-Laure Zunshine.
Oui, Hélène nous parlait tout à l'heure des colocations entre générations. Et dans votre ouvrage, Julia Moury, vous parlez notamment du succès des habitats intergénérationnels qui, selon vous, tient à un élément, reproduire la vie normale. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand des personnes décident de créer un lieu pour vivre ensemble, il y a tout un tas de questions qui se posent. Par exemple, s'il y a des enfants, ben est-ce qu'on va tolérer le bruit jusqu'à une certaine heure? Qui va s'occuper des corvées comme des poubelles, du nettoyage des parties communes? En fait, il y a tout un tas de questions qui émergent, auxquelles on pense pas forcément au début quand on se dit bon ben on va créer un habitat partagé et donc finalement ça prend énormément de temps de se mettre d'accord. Nous on a rencontré un modèle au Québec qui s'appelle Cohabitat Québec et qui est un lieu pionnier dans le domaine du cohabitat, où ils ont mis plus de 10 ans entre le moment où ils ont eu l'idée et le moment où ça a vraiment vu le jour. Et en fait c'est finalement tout le temps en train d'évoluer, de se transformer, puisqu'il faut que l'unanimité des gens soit d'accord avec la façon dont on vit. Donc, il faut pas laisser une personne lésée au niveau des décisions, et donc ça demande énormément d'organisation pour que les relations soient spontanées et que le vivre ensemble fonctionne.
Sur franceinter.fr, Lydie nous écrit « Mon père va avoir 92 ans et il vient de reprendre le mini-tennis avec une raquette à manches plus courte et puis des balles en mousse au sein de l'association Retraite Sportive dont il a été président. Je ne sais pas s'il joue au tennis, mais en tout cas, c'est l'heure de sa chronique. Chose presque vue, Éric Libiot. »
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Éric.
Alors, les vieux sont les héros, hein, on est tous d'accord, et le mien était mon grand-père, André, dit Toto, la vôtre c'était votre grand-mère, Thomas. Des héros de la vie, mais aussi des héros de fiction, et chaque histoire, chaque film, chaque roman qui en font des héros sont là pour raconter une façon de vivre vieux, parfois de vivre mieux, et chacun y verra ses désirs, ses espoirs et sa réalité. Une chose est sûre, l'immortalité n'est pas une solution, car comme le dit Woody Allen, l'immortalité c'est long, surtout vers la fin. Mais comment s'arranger de la vieillesse? Alors dans sa nouvelle L'Autre, par exemple, José-Louis Borges, écrivain érudit et auteur facétieux, s'imagine face à un autre lui-même, mais plus jeune. L'écrivain a 70 ans et se rencontre en jeune homme de 20 ans. Les deux hommes promettent de se revoir le lendemain pour confronter l'avenir de l'un et le passé de l'autre. Mais ni l'un ni l'autre n'ira au rendez-vous, sans doute parce que l'un ne veut pas savoir ce qui va s'écrire quand l'autre se refuse à regretter ce qui s'est écrit. Et si ce n'est pas possible de se rencontrer plus jeune, ni même souhaitable, on peut s'imaginer comme les deux héros d'Un singe en hiver, le roman d'Antoine Blondin, ou du film qu'Henri Verneuil en a tiré. On y voit Jean Gabin, alias Albert, vieil alcoolo acariâtre, retrouver sa jeunesse tempétueuse lorsqu'il rencontre Jean-Paul Belmondo, alias Gabriel. Et les voilà partis pour une nuit de biture où rien ne compte si ce n'est le comptoir. Une vieillesse joyeuse pour Albert qui s'affranchit des générations, une façon pour lui d'adopter le carpe diem, qui n'est pas une recette de poisson, mais une expression latine qui signifie « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Sauf pour vous, Thomas, qui avait une émission à préparer quand même. Autre façon de vieillir, dans La fin du jour, le film de Julien Duvivier où trois comédiens à la retraite, interprétés par Louis Jouvet, Michel Simon et Victor Francène rejouent les cabots et se complaisent dans la jalousie et les rancœurs avant de se rendre compte de la bêtise de leur comportement. C'est émouvant et méchamment drôle, le passé sert ici à cimenter des temps devenus fragiles. Et on peut aussi redécouvrir un film de Gilles Grangier, trop méconnu, Les Vieux de la Vieille, adapté d'un roman de René Fallet dans lequel trois anciens amis habitués aux farces et attrapes se retrouvent pour aller en maison de retraite d'où ils s'évadent pour retrouver leur village natal. Alors le maire du village accepte de les accueillir à condition qu'ils soient sages. Pas sûr qu'ils soient sages alors qu'ils essaient de revivre leurs exploits plaisantins. Mais faut-il revivre ce qui a été et est-ce si joyeux ? Sûrement pas, dit Ingmar Bergman dans Sarabande, son dernier film en forme de chef-d'œuvre et de constat terrible sur la vieillesse d'un homme.
C'est quand même moins drôle que Les Vieux de
c'est
la
Vieille. C'est moins drôle, oui. Que la vieillesse d'un homme, que la bienveillance de son ancienne épouse ne sauve pas. Mais bon, si Bergman est un immense cinéaste au film immortel, évidemment, ce n'est pas la Brigade du Rire, vous l'avez dit Thomas. Alors lui n'est pas immortel, mais ce qui lui arrive est assez étonnant. L'étrange histoire de Benjamin Button de Scott Fitzgerald, adapté au cinéma par David Fincher avec Brad Pitt. C'est le récit d'un bébé, si je puis dire, qui naît dans le corps d'un homme de 70 ans. Il ne vieillit pas, mais rajeunit, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, notamment dans sa relation avec Daisy, qui veille sur lui jusqu'à ce qu'il devienne un bébé et elle une vieille dame. Mais Benjamin profitera tout de même de sa vie étrange, malgré sa difficulté à trouver sa place dans une société où tout le monde marche à l'envers de lui. On retiendra alors ce que dit Fitzgerald, il faut savoir profiter de la vie, quelles que soient les circonstances. Et j'ajoute, même s'il est peu probable, malheureusement, qu'en vieillissant, on puisse ressembler de plus en plus à Brad Pitt jeune.
Oh, vous en êtes pas loin.
Oh ben, vous êtes charmant, un peu hypocrite, mais charmant.
Merci Eric, votre chronique est donc à retrouver sur le site de Grand Bien vous fasse. Vieillir ensemble, on continue de se poser la question juste après Aldous Harding. Vous êtes bien sur France Inter.
Everything I go by.
Lone, extrait du troisième album de la néo-zélandaise Aldous Harding.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Trois invités pour parler des vieux aujourd'hui, puisque nous avons dit que nous avions droit de dire vieux et que ce n'était pas péjoratif. Véronique Lefebvre Desnouettes, psychiatre spécialisée en gériatrie, et les fondateurs d'Oldyssée, un média qui donne la parole aux vieux, Julia Maury et Clément Poxbeld. Et puis nos amis de Grand Bien Vous Fasse sont là, Eric Libio et Marie-Laure Sunshine. Et ces messages qui continuent de nous arriver, notamment Mildrom qui nous dit « Dans personnes âgées, il y a personne, ne l'oubliez pas. À 75 ans, je me définis surtout par ce que je vis, ce que je fais par mes projets et mon utilité sociale. Mon âge, c'est une composante, mes soucis de santé, c'est intime et ça restera même quand j'irai moins bien. Je m'en occupe avec un groupe d'amis. Arrêtez de nous catégoriser jeunes, vieux, hommes, femmes. » Et puis cet autre message de Daniel qui nous dit « Dans le Morbihan, il y a 45 domiciles partagés en co-gestion avec à la fois la mairie, le conseil départemental et une association à but non lucratif. Aucun argent ne va dans la poche de personne. C'est une habitation en colocation de 8 personnes âgées atteintes en majorité de la maladie d'Alzheimer, accompagnées de 7 auxiliaires de vie. Un habitat inclusif qui participe à la vie de la commune et où tout se fait sur place, comme à la maison. Et les colocataires sont les employeurs. Mon épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer, nous dit Daniel. Et c'est grâce à cette structure que mon épouse est maintenant apaisée, et moi également. Il m'aurait été difficile de la conduire en EHPAD. Elle est heureuse dans ce nouveau monde. » Voilà encore un nouveau type de structure qu'il est plus facile peut-être d'ailleurs de mettre en place que les EHPAD, non ?
Oui, bien sûr, parce que alors le Morbihan m'est très cher, hein, puisque c'est ma patrie de naissance. Et bien sûr, dans ces régions-là, les petites unités de vie sont en ligne directe avec les donneurs d'ordre, avec les décideurs, avec les collectivités locales, avec les ARS. Moi, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous avec l'ARS, avec les gens qui vont pouvoir monter un dossier avec nous. Il faut trouver un bailleur social, il faut trouver des financements. Il faut pouvoir mutualiser les moyens. Et il a dit deux choses extraordinaires. Je n'aurais pas pu me résoudre à la mettre en EHPAD. C'est une vie familiale, il n'a pas dit normale, familiale. Et il y a un soignant pour un.
Mais ça a un coût.
Oui.
Et qui est sûrement plus élevé que celui des EHPAD.
Non, parce que il est financé par les collectivités locales et par la région. Et le fait que on puisse mettre en avant ces moyens et que l'on puisse les mutualiser fait que ça n'a pas de surcoût pour la personne. Donc cette solidarité fonctionne très bien. Alors à l'échelle de la région et en région parisienne, c'est extrêmement compliqué à monter ce type de structure. L'emprise du terrain est extrêmement chère, hein, ce qui fait que, eh bien, il y a le mauvais côté des financeurs et surtout pas des fonds de pension australiens ou américains, comme on l'a vu dans des modèles terrifiants. Hein. Des petites choses, small is beautiful, des petites unités, et avoir accès direct aux décideurs.
Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à construire autant d'EHPAD. D'ailleurs, la France est l'un des pays européens où on construit le plus d'EHPAD, et alors que ce type de structure semble plus facile, comme vous le dites, à mettre en place.
Elle ne semble pas plus facile, hein, mais il est nécessaire de les promouvoir, hein, à une échelle qui est une échelle locale. Mais on en construit, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il nous manque 100 000 places d'EHPAD parce que le pays vieillit et parce qu'il y aura malheureusement des personnes atteintes de troubles cognitifs qui ne pourront plus rester chez elles du fait de leur dépendance cognitive, physique et aussi mentale.
Mais dont le pourcentage est finalement relativement faible.
Oui,
et ça aussi, c'est ce que vous rappelez dans votre livre.
C'est ça qui est très important à comprendre. Il n'y a que 5 à 10% de personnes qui ne pourront pas rester chez elles. Donc le maître mot, c'est d'anticiper. Moi, je connais des couples qui anticipent et qui viennent à ma consultation avant. Ils se disent, ben voilà, on va vendre notre appartement parisien, on va s'acheter une petite maison de plein pied ou dans un habitat partagé. Mais c'est très difficile d'anticiper sa vieillesse avec handicap et sa vieillesse et sa finitude. On n'est pas très fort là-dessus, hein. C'est carpe diem.
Vous avez une question, Marie-Laure Sunshine, une question un peu hockey boomer.
Mais oui, vous savez, ce fameux hockey boomer, parce qu'on parlait tout à l'heure de la nécessité de casser les représentations. Mais les jeunes, tout de même, ce que nous ne sommes plus autour de cette table, chers amis, vous savez, ce hockey boomer que les millennials nous renvoient, alors évidemment, on a détruit la planète, on comprend plus rien, on est né après la guerre, enfin en tout cas jusqu'aux années 60, c'est quand même pas facile de recréer le lien avec, il faut bien le dire, avec une jeunesse qui fait un peu quand même du racisme anti-vieux.
Mais je pense qu'on peut demander ce qu'en pensent les fondateurs d'Oldyssée, justement, Julia Maury et Clément Poxbeld, qui sont peut-être un peu plus boomers que vous.
Oui, non, mais en effet, Ça me fait penser à la réaction d'un des auditeurs qui dit voilà, moi je veux pas qu'on me définisse par mon âge, et c'est disons l'écueil peut-être que peut tomber notre génération en parlant des hockey boomers, c'est-à-dire en essentialisant les personnes âgées, en disant voilà, vous avez vécu sur un modèle de développement qui n'était pas du tout durable, et vous n'êtes pas capable de tirer les leçons de ce modèle et de changer, de vous rendre compte des conséquences que ça a pu avoir et de changer. Et ça, c'est, je trouve que c'est dommage, et c'est un peu dans notre génération. Nous, on cherche aussi à s'adresser aux personnes de notre génération, justement en donnant la parole aux vieux, en leur montrant que c'est des personnes avant tout, et qu'elles sont capables, même si elles ont vécu, elles n'avaient pas toutes les données peut-être qu'on avait à l'époque, c'était pas encore un sujet, l'écologie, aussi largement répandu et aussi consensuel qu'on l'est aujourd'hui. Et on veut leur montrer que ces personnes-là, elles sont capables de changer, elles sont capables d'apprendre, et aussi elles ont leur rôle à jouer dans la transition qui doit se faire, parce qu'elles sont détentrices de savoir-faire qu'on a envie de retrouver quand on veut repenser comment on veut produire, comment on veut fabriquer nos vêtements, comment on veut manger plus sainement, comment on veut retrouver des circuits courts, etc. C'est quand même des personnes qui ont vécu à une époque où le monde était moins industrialisé, et qui ont des savoir-faire à nous transmettre de ce côté-là. Nous, en ce moment, on est en train de filmer des artisans qui ont tous plus de 80 ans, qui portent encore des savoir-faire, qui se perdent malheureusement, mais et on sait que notre génération a l'envie de retrouver tous ces savoir-faire, parce que ça fait partie de la solution, quoi.
Ce que vous écrivez, Véronique Lefebvre-Desnouettes, dans votre livre, c'est qu'il faut aussi s'habituer à voir dans la rue des personnes âgées dépendantes, avec le cheval de ma grand-mère, son déambulateur. Ce à quoi, c'est vrai, nous ne sommes pas encore vraiment prêts.
Ah, nous ne sommes pas prêts du tout, hein. Nous ne leur laissons pas de place, pas de visibilité. Ils sont invalidés par notre société, ils sont invisibilisés. La seule place qu'on leur donne, c'est de disparaître de notre champ de vision, et puis aussi, puisque la dernière année de vie coûte cher, eh ben, de demander la grosse piqûre, hein, ce qu'on me fait à l'hôpital, ce que je fais jamais. Et dans mon livre, je parle aussi beaucoup de la transmission. Je peins avec mes personnes âgées. J'apprends à mes petits-enfants à tricoter. J'ai beaucoup de personnes âgées, bien qu'elles soient atteintes de troubles cognitifs, qui me montrent comment on polie un petit bouton de nacre. J'ai des petites mains de chez Dior, de Chanel. Et puis, la poésie, vous en avez parlé tout à l'heure, la poésie des mots, le langage des personnes âgées. Oui, bien sûr, il n'y a personne derrière personnes âgées. Elles sont plus âgées que moi. Mais pour autant, nous arrivons bien entendu à communiquer, à surfer sur cette poésie du monde et des mots dans l'instant présent de ce que nous vivons ensemble. Moi, je souhaite redonner l'envie de travailler auprès des personnes âgées, même si elles sont en situation de dépendance.
Et de toute façon, la question se posera de plus en plus, hein, puisque les personnes âgées sont la population dont la croissance sera la plus forte dans les années à venir. C'est quoi? C'est 20 millions dans les années 2030,
oui, la population,
24 millions en 2060, oui. 5 millions de plus de 85 ans en 2060.
Oui, mais il ne faut pas faire peur en disant que c'est une pandémie grise. Les boomers ont quand même des choses à transmettre et à apprendre, hein. Ils ne sont pas qu'à jeter avec l'eau du bain.
On cite souvent cette fameuse phrase de De Gaulle, « La vieillesse est un naufrage ». Moi, je préfère de loin celle de Camus, « Il faut bien que vieillesse se passe ». Merci d'avoir été avec nous en direct dans Grand Bien vous fasse ce matin. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur franceinter.fr ou sur la plupart des plateformes de podcast. On se retrouve demain pour une émission consacrée au séjour à l'étranger, sûrement le meilleur moyen d'apprendre une langue, et on attend déjà vos témoignages sur l'appli de France Inter.